Le clivage, c'est bon. Tout le monde
tweet, filme tout.
En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante.
Formation numérique.
Le nez sur l'écran.
35 ans de carrière à Jérusalem, une quasi-anomalie dans le parcours d'un journaliste français. Charles Anderlin, correspondant pour France 2, prend sa retraite. Il vient régler quelques affaires à Paris. L'occasion de l'interroger non sur la situation au Proche-Orient, mais sur sa pratique journalistique, sur sa place dans le journal télévisé, sur ses sources et sur l'info en Israël. Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Comme chaque jour, on démarre avec l'actu média ici-bas. LCI continue de lutter pour sa survie et plaidait hier au CSA son passage en gratuit. Intéressant, la chaîne limiterait l'info en continu. Seulement un quart de son antenne contre la moitié pour ses concurrentes BFM et iTélé. Le reste du temps, des magazines visant à toucher un public plus âgé et plus féminin. À lire dans le Figaro ce matin l'interview du député Franck Riester. En 1974, explique-t-il, fallait scinder l'ORTF pour casser le lien de dépendance avec le pouvoir. À l'ère numérique, au contraire, il faut rassembler France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Alors France Média Monde, c'est TV5, France 4 et RFI. Et même Arte, dit le député. En clair, une BBC à la française, englobant tous les médias, créant des ponts en région entre France Bleu et France 3. Alors Franck Riester est républicain. À bon entendeur, salut si la droite passe en 2017. Et voilà, retour avec vous Charles Anderlin sur ce poste à Jérusalem que vous avez occupé 34 ans durant. On vous écoute le 13 septembre 1981, première année d'exercice sur Antenne 2.
Les mosquées d'Omar et El-Aqsa, le mur des lamentations, dernier vestige du temple d'Hérode, symbiose fragile du premier lieu saint du judaïsme avec le troisième de l'islam. Un équilibre précaire menacé par le tunnel qui s'insinue sous les mosquées au fond de ce couloir et que les rabbins ont déblayé à la recherche d'un trésor.
Alors vous avez été correspondant permanent en Israël, à Jérusalem, en poste à Jérusalem. C'est très différent que d'être correspondant permanent dans n'importe quel autre pays du monde, dans n'importe quel autre pays d'Occident. Est-ce que vous avez eu la sensation d'être correspondant de guerre, Charles Anderlin ?
À des moments, absolument.
À des moments ou,
absolument.
Ou tout au long de votre carrière ?
Non, pas tout au long. Il y a quand même eu des périodes de calme, il y a eu des périodes d'espoir. J'étais à la radio israélienne lorsque le président égyptien Anwar el-Sadat est venu à Jérusalem et c'était un moment fabuleux. Il y a eu deux intifadas, deux grands soulèvements palestiniens, beaucoup d'attentats entre et puis des périodes de grand calme. Cela veut dire être à l'écoute et puis surtout...
Et ces périodes de grand calme, c'est aussi des périodes riches journalistiquement ?
Ah oui, ça peut l'être, du moins si la rédaction est intéressée. Lorsqu'on est correspondant, il faut vendre des sujets, il faut justifier sa présence.
Alors donc, dans ces périodes de calme, justement, qu'est-ce qu'on vend quand on est Charles Anderlin ?
Médecine,
qu'est-ce qu'on vend pour faire sa place au JT de 20h ?
Médecine, start-up... des angles, j'ai fait quelques sujets dans Télématin sur qu'est-ce que c'est que le Shabbat à Jérusalem, comment ça commence, comment les ultra-orthodoxes se précipitent sur le grand, dans le grand marché juif pour faire fermer les étals, et puis ensuite le soir, eh bien les jeunes commencent à vivre, à lutter contre ce Shabbat imposé par les orthodoxes avec des boîtes de nuit sympas, une boîte gay.
Vous disiez, quand on est correspondant, on vend ses sujets à la rédaction. Donc finalement, on vit en permanence une forme de concurrence entre les sujets, on vit une forme de concurrence entre l'actualité internationale, entre les guerres, entre les conflits de haute intensité, de basse intensité. Ça, vous l'avez vécu, vous l'avez senti, c'est-à-dire il y a des moments où vous êtes dans les lumières, il y a des moments où d'autres conflits vous ont volé la lumière.
Il y a des moments de grande frustration. J'étais au Caire, j'avais annoncé à ma rédaction que le président égyptien Morsi, frère musulman, allait être limogé. Je savais que ça allait arriver. Les éditorialistes à Paris disaient « Non, Anderlin se trompe, Morsi a le soutien du président Obama. » Je savais qu'il allait tomber et le soir... Le président égyptien est limogé par les généraux et Pépin, le roi des Belges, abdique. Et le journal s'ouvre et consacré en partie à la Belgique voisine de la France, francophone, et on a eu 50 secondes pour raconter cet événement incroyable, et ça c'est le prix que l'on paye lorsque l'on est correspondant. La rédaction a sa propre échelle de l'information, ça dépend de la proximité, ça dépend de l'importance, et puis franchement le Proche-Orient parfois c'est très loin pour les Français.
Et parfois, c'est très répétitif. 34 ans dans le même pays, justement, dans cette histoire complexe et inextricable qu'est l'Israël. C'est une forme de sédentarité quasi unique pour un correspondant. Vous n'avez jamais eu envie d'ailleurs, Charles Anderlin ?
Si, j'ai été candidat au poste de Washington. Finalement, France Télévisions a décidé de me laisser à Jérusalem et le poste est allé à mon ami Alain Chalvron. Cela dit, vous savez, après quelques décennies, j'ai décidé que la télévision, ça finissait par rétrécir le cerveau, faire des petits sujets, 1 minute 30, 2 minutes, oui. 3 minutes. On écrit très, très court. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à écrire des livres, à raconter autre chose, aller au-delà de l'immédiat et du sujet diffusé, et même du petit documentaire. C'était l'occasion de vérifier si je ne m'étais pas trompé à un moment ou à un autre. Après les accords d'Oslo, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y a eu dans les coulisses. Mmh. Comment est-ce que tout à coup, du jour au lendemain, paf, Israël et l'OLP, Rabin et Arafat signent un accord. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Et c'était fascinant, il y a eu des contacts secrets, il y a eu des négociations secrètes dès 85-86, dont personne n'était au courant. Les choses ne sont jamais telles qu'on les voit. Donc ça.
Alors
m'a...
ça, c'est passionnant, Charles Anderlin, parce que vous nous dites ça et en même temps, vous nous les montrez en 1 minute 30, 2 minutes, parfois 2 minutes 50, et c'est encore relativement rare dans un JT. Il y a quelque chose de, j'imagine, vertigineux face à la complexité de la situation au Proche-Orient et aux exigences d'un journal télévisé.
On a eu l'année dernière une guerre à Gaza. Mm-hmm. France 2 a décidé de le couvrir aussi bien du côté Gaza que du côté israélien. Sam Assoula était à Gaza, montrait des images épouvantables. Franck Genozo était du côté israélien sur la frontière, en duplex à Jérusalem. Eh bien, vous savez, l'histoire de la guerre à Gaza n'est en fait pas du tout celle que l'on montrait au jour le jour avec l'actualité, les images fortes. Cette guerre est arrivée à cause des Égyptiens. Il y a eu des incidents, l'enlèvement de 3 jeunes.
Ça veut dire quoi, Charles Anderlin ? Que quand on regarde un JT de 20 heures, on regarde une vision tellement simplifiée de la situation
qu'elle
est terriblement lacunaire, qu'elle est trompeuse, qu'elle est déformée.
Tous les JT. Y compris sur les chaînes d'infos, absolument. Mmh. Maintenant, régulièrement, et France 2 le fait dans les journaux, on essaye d'aller au-delà de l'analyse. Ça, c'est des problèmes rédactionnels. Jusqu'où on peut aller dans l'analyse et jusqu'où le public comprend la différence? Est-ce qu'à un moment donné, on va pas me dire « attention, tu fais diplôme ». Tu rentres trop dans les détails techniques. Ça, c'est le danger auquel moi, vieux correspondant, je faisais face régulièrement.
Mais parce que c'est ça le danger du vieux correspondant, c'est d'en connaître trop, c'est d'en savoir trop sur son
aussi,
sujet, c'est
oui,
de connaître les arrière-plans, les coulisses, les offs, les intermédiaires, les personnalités secrètes, les personnalités...
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait. C'est un des sujets, donc il faut pouvoir éliminer. On vous donne, vous savez, les duplex, quelle que soit la chaîne, ça va jamais au-delà de 1 minute, 1 minute 10.
Non, bien sûr.
Pendant les 2 révolutions au Caire, j'ai été béni, on m'a donné en direct du Caire beaucoup plus, et j'ai pu raconter. Mais encore une fois aussi, les JT changent. Mm-hmm. Vous les voyez comme moi, il y a beaucoup plus de sujets plutôt magazine, plutôt concernant le public français, des sujets sur la consommation et la place de la politique étrangère, naturellement, se limitent de plus en plus. Je crois qu'il faut donner au public, en France, un média où il pourra aller chercher des analyses. Ce sera peut-être la chaîne Tout Info que France Télévisions veut faire, parce que cela manque. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de réfugiés qui arrivent aux portes de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Si demain vous avez un pépin énorme avec l'armée française au Mali, qui se souvient que des soldats français se battent en Afrique? Qu'on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas tout dire parce qu'on n'a pas la place, parce que...
Alors, on fait aussi tourner les correspondants, Charles Anderlin, parce qu'on estime que tout journaliste spécialisé dans un secteur, quel qu'il soit, est à un moment soumis à une forme de pression, de tentation, d'habitude, d'usure, qu'il connaît les gens, qu'il s'est fait des amitiés, qu'il s'est fait des inimitiés, des ennemis, etc. D'où l'idée de faire toujours tourner les journalistes, pas vous.
Écoutez, j'ai parti du principe, et quand j'étais à la radio israélienne, où je n'avais pas que des amis dans le public israélien, et quand j'ai commencé Antenne 2 puis France 2, de ne faire de cadeaux à personne. À partir du moment où vous ne faites cadeau à personne, on finit par vous attaquer. Il y a eu des moments difficiles, surtout pour la famille, mais je dois dire que ça ne m'a pas gêné pour faire des documentaires, sortir des bouquins. Jamais mes sources en Israël et chez les Palestiniens ne m'ont lâché.
L'Instant M, c'est le rendez-vous média de France Inter.
Et sur France Inter ce matin, Charles Anderlin, ce visage, cette voix qui vous éclaire le Moyen-Orient depuis 1981, au journal d'Antenne 2 puis de France 2. À Jérusalem, vous y avez côtoyé, Charles, des journalistes venus de tous les pays pour couvrir cette région.
We have about
4 brigades on the ground preparing.
Ça c'est CCTV, c'est la chaîne publique chinoise. Donc je l'ai dit, terrain d'observation privilégié, vous avez vu des reporters venir de tous les pays. Est-ce que vous avez observé des pratiques journalistiques intéressantes, différentes, selon les nationalités, selon les cultures?
Ben écoutez, oui, les anglo-saxons, d'abord la BBC est extraordinairement professionnelle, ils ont surtout BBC World, la grande chaîne d'info internationale anglaise que je ne rate jamais, très sérieux, les Israéliens les détestent d'ailleurs. Les Américains ont réduit leur couverture.
Les Israéliens ont toute une histoire avec les Anglais, Charles Anderlin.
CNN est toujours là, et travaille et couvre un peu aussi la région. Mais les grandes chaînes américaines, ABC, CBS, NBC, aujourd'hui, c'est des junior journalistes qui couvrent des petits sujets et qui souvent travaillent plus pour le web que pour leur chaîne aux États-Unis.
Alors que les journalistes américains étaient très présents au Moyen-Orient.
Absolument, ouais. Il y avait de très grands bureaux de ABC.
Quels sont les pays les plus intéressés, les plus avides d'informations en provenance du Moyen-Orient, selon vous? Et les régions qui ne s'y intéressent pas du tout?
Les deux chaînes d'info américaines, Fox et CNN. Les Allemands couvrent pas mal, ils ne sont pas installés à Jérusalem mais à Tel Aviv. Eux, ils font du travail maintenant. Les Italiens sont là, travaillent aussi beaucoup.
Vous diriez qu'en 34 ans, vous avez vu la région s'appauvrir en matière de couverture journalistique?
Sur ces 5 dernières années, absolument. Parce que, et vous l'avez dit, c'est répétitif. Lorsque j'appelle la rédaction, les Israéliens construisent encore 500 unités de logement en territoire occupé. On me répond, écoute, c'est pas nouveau.
Penchons-nous justement sur les médias israéliens eux-mêmes, sur les sources d'informations qui sont à votre disposition en Israël.
שנה טובה לכם, שלום רב, חג לא שקט בירושלים, גם במהלך ימי החג. נמשך טרור האבנים בעיר וגבה את חייו של אזרח ישראלי, אלכסנדר לבלוביץ', תושב ירושלים.
Les chaînes israéliennes que je regarde, les grandes chaînes en hébreu, vous savez, pendant la guerre à Gaza, l'année dernière, elles ont été sur le mode de toute info pendant la journée. On a fait sauter tous les programmes, les films, les jeux, etc. C'était une roquette est tombée à tel endroit, un débat. Le soir, c'était la grand-messe de 2 heures des grands journaux avec des infos, des sujets, etc. Tous égocentristes Israël, avec un peu les réactions à l'étranger. Les Israéliens n'avaient pas de correspondants dans Gaza, bien entendu, mais avaient des images d'agence et les sujets faits par les chaînes internationales à Gaza. J'ai vérifié, la chaîne la plus vue en Israël, qui fait le plus d'audience, la seconde chaîne, avait donc sur ces 2 heures le soir, elle ne diffusait sur l'horreur qui se déroulait à Gaza 5 minutes. Donc c'était un problème. Il y a eu des pressions énormes de mouvements de droite contre certains commentateurs, notamment un commentateur considéré à gauche, un héros de la guerre d'octobre 73, il a le visage entièrement refait. Il y a une manifestation devant la chaîne avec des militants de droite qui disaient « Dommage que tu n'as pas brûlé dans ton char en 73 ». Donc il y a eu un certain courage de plusieurs confrères, mais dans l'ensemble, une pression énorme pour le montrer le moins possible ce qui se passait à l'intérieur de Gaza. D'ailleurs, la couverture du problème palestinien en Israël aujourd'hui, même de l'ensemble du monde arabe, se résume en général uniquement à des informations ou des sujets sous l'aspect sécuritaire. Le terrorisme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Abbas va aller à l'ONU ou non? Mais sur comment vivent les Palestiniens, on ne le voit pratiquement pas. On ne nous raconte pas ce qui se passe dans le monde arabe. Israël se referme
dans une bulle. Alors, vu de l'extérieur, la télévision israélienne semble connaître une période de boom et de prospérité en matière d'exportation. Là, je ne parle pas de l'information, mais je parle des programmes. On a vu beaucoup de programmes de divertissement, de télé-réalité se vendre dans le monde entier et être adaptés. On a vu beaucoup de séries faire leur trou aux États-Unis, faire beaucoup parler, être diffusées en France, et des séries qui ont l'air plutôt ancrées dans la réalité, Charles Anderlin, avec un regard assez cru et extrêmement réaliste sur la situation sociale et politique, très critique.
En dehors de l'info, effectivement.
En dehors de l'info,
le cinéma, les séries israéliennes. Et Amos Gitaï sort un nouveau film sur l'assassinat de Rabin qui fait assez parler de lui et que la droite n'aime pas du tout. Oui, à ce niveau-là, on a des cinéastes, des réalisateurs qui font des choses. Vous avez une série sur les unités spéciales de l'armée israélienne et du Shin Bet qui, déguisés en palestiniens, vont procéder à des arrestations ou à des liquidations. Ça s'appelle en arabe « fauda », c'est-à-dire « le chaos ». Et je peux vous dire que mes enfants 20 ans et 18 ans n'ont pas raté un seul épisode. Et c'est ni noir ni blanc, c'est des teintes différentes de gris.
Donc finalement, elle est là, elle est dans les séries télé, cette prise sur la réalité, sur la complexité, sur la noirceur de ce paysage et de ses angoisses.
Oui, absolument. Alors il faut choisir, on est de tel côté, de tel côté, mais alors à un moment donné, en regardant, vous dites finalement, le Palestinien, il est bien. Et c'est aussi un message qui passe. Maintenant, ça passe à certaines heures, c'est pas toujours en prime time. Fauda passe sur le câble. Je ne connais pas les taux d'audience. Ça touche un certain public, mais vous avez aussi tout un public qui ne regardera pas ça. Il y a eu la série sur un arabe israélien qui veut se comporter comme un juif israélien, écrite par l'excellent écrivain Saïd Kachoua, qui finalement, après la guerre à Gaza, dit « je quitte ».
Merci Charles Anderlin. Au nom du Temple, l'irrésistible ascension du messianisme juif en Israël, c'est votre dernier ouvrage, publié au Seuil en 2013, c'est-à-dire il y a à peine 2 ans. D'autres suivront, c'est sûr, puisque vous avez du temps maintenant. Fin de l'Instant M, je vous retrouve demain matin à 6h50 pour le conseil télé du jour et à 9h40 pour une nouvelle émission. Nous recevrons Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, élu après quelques péripéties fin juin. Il nous accorde sa première interview. Et maintenant, Bruno Duvic, de quoi sera fait votre jour en France?
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Aujourd'hui, reportage chez une dame qui accueille chez elle un réfugié. Depuis quelques jours, les initiatives se multiplient pour aider ces hommes et femmes venus du bout du monde à accueillir chez soi. Est-ce que c'est une solution durable, efficace? Pour aider vraiment, quels écueils et est-ce que c'est le rôle des particuliers? Intervenez au standard 01 45 24 7000 et par mail, c'est unjour en France @radiofrance.com.
Et c'est juste après les infos. Bonne émission, Bruno.